Frères et sœurs bien-aimés, dans quelques heures, nous contemplerons la bienheureuse Vierge Marie dans le mystère de son Assomption, dans l'attente de la voir un jour là-haut dans sa gloire. Nous la saluons ici-bas, en reprenant les paroles inspirées de l'archange Gabriel et de sainte Élisabeth. À ce concert de louanges s'ajoute la supplication de l'Église que nous allons approfondir en ce dimanche, reprenant en cela notre méditation de l'Ave Maria. Demandons l'aide de celle qui, en Mère de Dieu, prie pour nous maintenant. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, je prie pour
nous. Issue de l'Évangile selon saint Luc, la première partie de cette prière est la plus ancienne. Du 4e au 16e siècle, elle en est la seule. Il existe quelques développements orientaux, fruits de la dévotion de quelques traditions liturgiques, comme celle de saint Jacques qui achève cette prière en ces termes « Car tu as engendré le Sauveur de nos âmes ». Ou encore, cette tesselle égyptienne sur laquelle cette prière, gravée, s'achève par ces mots « Car tu as conçu le Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur de nos âmes. » Cependant, lorsque cette prière parvient en Occident au 7e siècle et se popularise au 12e, elle ne comporte que les deux versets évangéliques. L'Église a seulement précisé le nom commun, pourrions-nous dire, de celle que l'archange nomme pleine de grâce, Marie. Le pape Urbain IV, au début des années 1260, ajoutera à la bénédiction du fruit des entrailles de la Vierge la précision de son nom, Jésus. Mais il faudra attendre 2 siècles pour que cet ajout se répande, de telle sorte que lorsque saint Thomas d'Aquin la commente en 1273, cette prière ne mentionne pas encore le nom de Jésus. C'est au peuple chrétien que l'on doit alors la constitution de la seconde partie qui l'accompagne. En prenant l'habitude d'adresser ses paroles à la Sainte Vierge, il ne se contente pas de la louer. Il fait de l'Ave Maria le cri filial des pécheurs demandant à la Mère de Dieu les secours de sa prière. Les visions, comme les écrits de sainte Gertrude d'Elfta, la Divine Comédie de Dante, les homélies de saint Bernardin de Sienne portent le témoignage de cet élan. La première mention de la version longue de l'Ave Maria se trouve dans le Bréviaire des Chartreux en 1350. Elle atteste que cette prière est récitée quasiment telle que nous la connaissons aujourd'hui, dès le XIVe siècle, dans quelques régions européennes. En 2 siècles, elle gagne alors toute l'Église, alors que le pape Saint Pie V l'ajoute au Bréviaire romain. Nous sommes en 1568, peu après le Concile de Trente. Ainsi, entre la salutation de l'archange Gabriel et cette consécration officielle de l'Ave Maria, 15 siècles se sont écoulés. Approfondissons cette supplication s'ouvrant par cette adresse, Sainte Marie. À l'école de saint Thomas d'Aquin, méditons les significations de ce prénom qui, en syriaque, signifie « souveraine ». Ce prénom convient parfaitement à Marie, commente-t-il, puisque la Vierge est la mère du souverain Seigneur et donc elle-même souveraine. Ainsi, contemplons-nous son couronnement dans le 5e mystère glorieux du chapelet et lui chantons-nous « Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez-en souveraine, chez nous ». En latin, ce prénom signifie « étoile de la mer, et saint Thomas de commenter. Comme les navigateurs par l'étoile de la mer sont conduits vers le port, par Marie, les chrétiens sont conduits vers la gloire. Ainsi l'Église la salue-t-elle par cet hymne célèbre Ave Maria Stella. Là où les pèlerins invoquent Notre-Dame de Garaison lui chantant « De ton rayon, ô blanche étoile, guide ma voile jusqu'à Sion. » Les litanies de la Vierge ne sont pas en reste. Elles invoquent en Marie la Stella Matutina, l'étoile du matin. Pour autant, ces litanies, comme notre prière, n'invoquent pas Sainte Marie sans faire suivre son titre de Mère de Dieu. Voilà une dénomination bien singulière et à la riche histoire qui nous emmène en Orient, de Nicée à Éphèse, en passant par Constantinople. Nous voici au IIIe et IVe siècle. Les controverses qui agitent l'Église en ce temps-là l'obligent à préciser sa foi. Elle a reçu le credo des apôtres, qui renferme, à l'image de leur nombre, 12 courts articles. Ce credo, nous le connaissons nous aussi par cœur, c'est celui que nous récitons par exemple en commençant le chapelet « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Cependant, les controverses au sujet du Christ sont telles que l'Église, assistée en cela du Saint-Esprit, doit préciser et approfondir les vérités de foi. Ainsi, en 325, le Concile est-il convoqué dans la ville de Nicée. Les évêques délibèrent et proclament un credo plus long, plus précis, qui sera par ailleurs complété en 381 lors du Concile de Constantinople. Ce credo, portant le nom de ces deux villes, nous le connaissons lui aussi par cœur. C'est ce long credo qui nous parle de l'univers visible et invisible et que nous chantons en latin « Credo in unum Deum ». Pourquoi, me direz-vous, une telle introduction, puisqu'aucun de ces deux credos ne renferme ce titre de Mère de Dieu? Patience, car du Fils, nous parviendrons à la Mère. En effet, si le Concile de Nicée précise que nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, c'est pour contrer les velléités de ceux qui, privilégiant son humanité au détriment de sa divinité, en viennent à diviser le Christ. À grands traits, d'un côté se trouve le Christ, le Fils de Dieu, de l'autre se trouve le Christ, le Fils de Marie. Non pas un seul et unique Christ, deux Christ. Ainsi, les partisans de cette erreur considèrent-ils qu'il fut un temps où le Christ n'était pas. C'est pourquoi le credo de Nicée corrige « Il est le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. » Les mêmes insistent encore « Avant de naître, le Christ n'était pas. » Le credo développe « Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. » Là où ils tiennent qu'il a été créé à partir du néant, le credo affirme « Il est engendré, non pas créé, et est consubstantiel au Père. » En précisant la divinité du Christ, le credo de Nicée ne néglige pas son humanité. Il défend l'unité de la personne du Christ dans laquelle se trouvent et la nature divine et la nature humaine. Ainsi déclare-t-il avec les incises précisées à Constantinople, « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. » Il serait faux de penser qu'avec la clôture du Concile de Nicée, de telles erreurs disparaissent du jour au lendemain. Un siècle plus tard, en 428, le nouveau patriarche de Constantinople, Nestorius, est un tenant de cette école dite antiochienne. Il suscite rapidement de vives oppositions, car dans ses prédications, il préfère désigner Marie par le vocable de Mère du Christ, en grec Christotokos. En cela, il s'oppose à cette appellation que la ferveur populaire, ensuite des éclaircissements du Concile de Nicée, attribue à Marie, Mère de Dieu, en grec Théotokos. Mère du Christ, me direz-vous avec raison, n'est ni choquant ni erroné, nous invoquons la Sainte Vierge par ce vocable dans ses litanies. Certes, mais sous cette appellation, Nestorius considère que Marie est seulement la mère de l'homme Jésus. Nous retrouvons donc les erreurs dénoncées par le Concile de Nicée. À sa suite, la foi du peuple chrétien affirme que Marie est mère de Dieu. Attention! Cela ne signifie pas que Marie serait à l'origine de la Sainte Trinité, non. En devenant la mère de Jésus, elle devient la mère de Dieu, puisque l'enfant à qui elle donne chair ne cesse pas d'être Dieu tout en devenant, par elle, homme. C'est alors que se lève la voix de Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie. Il s'attache non seulement à défendre la vérité, s'efforçant de faire entendre raison à Nestorius, tout en préservant l'unité de l'Église. Mais Nestorius se rebiffe et parvient à faire convoquer en 431 un concile à Éphèse, ville mariale s'il en est, puisque la Vierge y a vécu avec saint Jean. S'il pense en sortir victorieux, Nestorius entre évêque, mais ressort déposé, ses positions erronées fermement condamnées par l'Église. En effet, le Concile d'Éphèse proclame haut et fort qu'il n'y a qu'un seul Christ, Dieu et homme, et qu'en cela Marie est la Mère de Dieu. Ainsi, en demandant à Sainte Marie de prier pour nous, nous invoquons les secours de la Mère de Dieu. Dieu le Fils pourrait-il refuser ce que sa tendre mère lui demande? Dieu le Père, qui ne fait qu'un avec son Fils, pourrait-il s'opposer à l'intercession de Marie? Dieu le Saint-Esprit, à l'ombre duquel se tient la Sainte Vierge, pourrait-il refuser les aspirations de celle qui demeure docile à ses inspirations? Animé d'une pareille confiance, nous supplions la Sainte Vierge de prier pour nous. Nous lui confions dans l'intimité de nos âmes, nos soucis et nos inquiétudes. En bonne mère, elle devient alors inquiète de nos inquiétudes, soucieuse de nos soucis, compatissante à nos douleurs, et cela maintenant et à l'heure de notre mort. Nous qui sommes de pauvres pécheurs, nous avons recours à la richesse de celle qui, pleine de grâce, est préservée du péché. Elle est donc la mieux disposée, l'Immaculée, pour défendre notre cause aux côtés de son Fils. En Mère de Dieu, elle répand sur nous ses grâces dont elle est pleine et comblée. Pauvres pécheurs, nous l'entendons, en Mère exigeante, nous ramener à son Fils là où nos péchés nous en éloignent. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Cet ordre, lancé à Cana en Galilée, résonne en nous. C'est cet appel maternel lancé à la suite de son Fils et de saint Jean-Baptiste qui nous invite à la conversion. L'écho de la grotte bénie de Lourdes y est à l'unisson. Par sainte Bernadette, nous entendons la belle dame des roches de Massabielle nous y inviter, prier pour la conversion des pécheurs. Cette intention est la nôtre. C'est pour nous, fils de la Bigorre et des Quatre Vallées, un devoir filial. Être fils de ce pays, c'est appartenir à la Vierge Marie. Cette prière de l'Ave Maria nous est ô combien familière. Depuis notre plus jeune âge, nous l'avons apprise par cœur. Et depuis lors, nous la récitons plusieurs fois par jour. Elle est sur nos lèvres, le matin et le soir, revient avec les cloches sonnant joyeusement l'Angélus et se prolonge alors que nous égrenons le chapelet. Cependant, la familiarité de cette prière est plus profonde encore. Elle vient de ce que du haut de la croix, le Seigneur nous recommande à sa mère, « Fils, voici votre mère. » Depuis lors, en disciple bien-aimé du Seigneur, comme saint Jean, nous avons pris Marie chez nous. La voici donc, la source de cette familiarité. La mère de Dieu est notre mère, nous sommes ses enfants. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Mère du Christ, ô Marie, conçue sans péché. Amen.